La première de ces nouvelles s'appelle Le Ventre. Il était blanc, poli, un peu élastique, doux à l'œil et au toucher, jeune et sain, un ventre de femme. Je ne pourrais l'affirmer cependant. À vrai dire, je ne m'en préoccupais guère. Mais ce dont je me souviens exactement, c'est du couteau. Parce que longtemps après, je l'ai gardé accroché à l'arçon de ma selle. Une bonne et solide lame, large d'un demi-pouce, longue de 10, effilée, légèrement recourbée vers la pointe, avec une forte poignée de chêne que quelques chameliers de Flissa, artistes inconscients, avaient ornée de bizarres arabesques. Je me rappelle avoir hésité une minute, puis fermé les yeux, et alors un jet très chaud me cingla le visage. Je vois encore le trou béant et la lame ruisselante, et il me sembla qu'une bise chargée d'aiguilles de glace me fouettait la tête. C'étaient mes cheveux qui se dressaient. Pour un coup d'essai, on pardonnera mon épouvante. J'avais à peine 20 ans. Ce qui me terrifiait surtout, c'est que dans la lueur vague flottante sur ce corps, je venais d'apercevoir un œil immobile, vitreux, sinistre, attaché sur moi. Ce regard, il fallait l'éteindre. Je frappais un second coup, mais il restait sur moi, avec l'implacable ténacité d'un remords, fixe, morne, comme un œil de l'autre monde qui regarde à travers la vitre des ombres. « Tu baisseras ta paupière maudite, » criai-je. « Je ne veux pas que tu me voies. » Et une troisième fois, je replongeai la lame. J'ignorais que ceux qui meurent assassinés s'en vont les yeux ouverts, comme s'ils ne pouvaient les détacher des choses de la vie, et qu'il me suffit d'un coup de pouce pour fermer à jamais cette paupière. Mais, jeune et inexpérimenté, je continuais les coups de couteau. Je trouais, et en trouant cette chair et ses entrailles, passait devant moi comme une nuée de fantômes, des essaims de souvenirs. Je pensais à ces héros des temps antiques dont on nous fait admirer ou maudire sur les bancs de l'école les glorieux coups de poignard, selon que la cause qu'ils ont servi se rapproche ou s'éloigne de l'orthodoxie officielle. Je pensais à ces vaillantes légions entrées par la brèche dans les villes affolées et éventrant bravement tout ce qui se trouvait sous leur rage, depuis l'enfant dans le sein de sa mère jusqu'au vieillard assis sur la chaise curule. Je pensais aux pieux capitaines offrant aux dieux des batailles le sang impur des infidèles de tout sexe et de tout âge et s'y vautrant jusqu'au poitrail de leurs destriers. Je pensais aux exploits sanglants de nos pères et de nos frères et à ceux qu'accompliront nos fils, à toutes les grandes tueries humaines faites, les unes au nom de Dieu, les autres au nom des empereurs et des rois, les autres encore au nom du peuple et les dernières au nom de l'ordre et de la civilisation. Et après tous ces assassins illustres ou obscurs, mon couteau sanglant au poing et devant ce ventre ouvert, je me sentais humiliée. Cependant, me disais-je, ce n'est pas ma faute si je n'ai qu'un ventre à crever. Mes chefs m'ont dit « tu », j'ai obéi, j'ai fait pour le mieux. D'autres, qu'on me dise d'en ouvrir d'autres. Et brandissant le flissa d'où coulait la rosée rouge, ivre de fureur, je me dressais sur mes pieds. « Tu as eu tort de lui donner du hashish », murmura une voix de femme. « Regarde, le délire travaille sa cervelle. Bah » répondit une autre. « Tu sais, je sais comment le lui ôter de la tête. » Alors je sentis une odeur de musc me pénétrer, tandis que quelque chose de doux frôlait mes lèvres, et deux mains me caressaient le front, et la même voix harmonieuse m'appelait « Allons, allons, Rumi, reviens à toi, là, reviens. » Et je revins à moi, mes lèvres appuyées entre les seins de Meryem. Elle s'écarta et se mit à me regarder en souriant, tandis que Fatma, sa sœur aînée, soulevait un des coins de la tente, me montrant la plaine inondée du soleil du matin. Le soleil, le beau soleil. Ses rayons radieux chassaient les vapeurs du sombre cauchemar. Ma poitrine se dilata et, inondée d'une joie immense, je reportais mes yeux ravis sur la jeune fille des Ouled Naïl. Mais je la vis se baisser, ramasser mon flissa près du lit de peau de chèvre et l'examiner avec attention. Du bout de son petit pouce teint de henné, elle en essaya le tranchant et la pointe. Je suivais ses mouvements et de nouveau, je sentis les griffes de mon cauchemar me labourer le cœur. La lame était rouge. « Du sang !» m'écriai-je. « Oui, 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 » répondit-elle tranquillement. « Celui qui s'en est servi a oublié de l'essuyer. » Elle prit un chiffon de laine, le passa lentement sur la lame qui laissa une large maculature. « C'est donc vrai, » dis-je effaré. « Le ventre, le ventre !» Et mes yeux se portèrent sur un tas de débris sanglants gisant à quelques pas de moi. « Quoi ? » demanda-t-elle en suivant la direction de mon regard. « Ce n'est pas le ventre, c'est la peau et la tête. Le ventre, nous l'avons donné au chien. » Je me rappelais alors que Fatma avait fait égorger un mouton la veille et que j'avais offert mon flissa pour l'immolation. Après le repas homérique, gorgé de viande et de couscous et saoulé d'amour, j'avais reposé ma tête sur les genoux de Meriem. Elle s'amusait à me faire tirer des bouffées de son petit chibouk rouge bourré de haschich, et j'éprouvais un plaisir infini à sentir ma pensée s'en aller et se perdre avec la fumée bleuâtre, lorsque mes yeux noyés s'arrêtèrent sur la tête et la peau de la victime jetée dans un coin de la tente. À la lueur du brasier qui s'éteignait lentement, cette peau retournée offrait une étrange ressemblance avec un ventre humain. Plongée dans ce demi-sommeil où s'ébauchent les hallucinations et flottent les spectres, mon cerveau obstrué par le trop-plein de l'estomac avait élaboré le rêve où le haschich jette au profane ses sanglantes visions. Je m'efforçais de rire de ma terreur, mais le rire se glaçait sur mes lèvres au souvenir de ma pensée toute souillée de sang. Longtemps, dans la suite, je restais épouvantée de l'étrange frénésie qui s'était emparée de moi et de l'âpre volupté qui m'avait saisie à plonger dans ses entrailles ouvertes mon couteau d'assassin. Je cherchais vainement qui avait pu évoquer cette monstrueuse image, ignorant alors que les milieux déteignent sur les êtres et qu'avec l'air qu'on respire, on se sature de vice ou d'imbécilité. Aussi, bien peu font leur destinée, et l'homme fêtu de paille est le jouet de cette brise aux mille caprices qui s'appelle le hasard. Sang, musc et haschich, c'est-à-dire guerre, amour et rêve. Dans ces buées capiteuses palpite encore, au fond de nos possessions algériennes, le cœur d'un peuple que notre civilisation étouffe et qui s'en va peu à peu, s'éloignant dans ses vices formidables et ses incomparables grandeurs. Je vais essayer de le peindre, tel que je l'ai vu et coudoyé pendant 10 ans, rêvant à ses côtés, parlant sa langue, vêtu de son burnou, mangeant à son plat de bois, montant ses chevaux, aimant ses filles, vivant de sa vie enfin, dans la montagne ou dans la plaine, sous le gourbi du Kabyle, la tente du Bédouin, la maison du Hadar, et bien souvent, sous le ciel étoilé.